Chat perché, par Richard Keller, chapitre 5. Sagol se rendit à la boulangerie avant d'aller à la brigade. Madame Liorant discutait avec le boucher, qui sautillait sur une jambe. Il avait laissé ses béquilles chez lui. Ce n'était pas très raisonnable, avec les trottoirs et le pavé verglacé. Mais c'est comme ça qu'il révélait son originalité, réfractaire à toute contrainte. Le fils aîné du frère de Loïc s'appelait Yann. Il s'entendait à merveille avec son nouveau patron, qui lui confiait sans souci les clés de sa boutique. Il était dur au labeur et d'un caractère joyeux. Nestor le premier se félicitait d'avoir recruté ce jeune homme. Lui venait donc un peu plus tard, simplement pour superviser, et s'installait sur un tabouret de bar que lui prêtait Ginette. Il se contentait de tenir la caisse et de papoter avec ses clients. Sagol les salua tous les deux. Elle se tourna dans sa direction en lui demandant s'il allait trouver le coupable rapidement. « Ce n'est pas si facile que cela, Ginette, mais nous avançons. Je ne peux vous en dire plus aujourd'hui. Et vous, monsieur Rioux, comment allez-vous? Ce n'est pas trop grave, j'espère. » Nestor, heureux que le chef s'adresse à lui, pris une mine de circonstances. C'est difficile, monsieur Sagol, avec mon commerce. Je me suis fait une rupture des ligaments. Ginette rajouta que Nestor voulait déposer une plainte contre Mistigris pour délit de fuite. Sagol, d'excellente humeur, se tourna vers l'estropié et lui demanda de courir de ce pas à la gendarmerie, et surtout de bien indiquer la direction qu'avait pris le chat en question. Nestor lui répondit qu'il avait fait appel à une milice privée qui nettoyait avec application le quartier. « Oui, mais ton matou, il court toujours, Nestor. Et toi, tu boites !» déclama son ami. « C'en est trop. Même toi, tu es dans le camp des Ramina Grobis. Monsieur Sagol, ma vie est un enfer. Je suis cerné de tous côtés. L'ennemi s'est infiltré jusque dans la boulangerie. Les espions sont les plus difficiles à éliminer. Ils agissent en sous-main. À votre place, je serai prudent, monsieur Rioux. Vous pourriez être la victime d'une action concertée, une sorte de commando téléguidé par Mistigris. Vous avez raison, monsieur Sagol. Je vais attacher mes saucissons aux béquilles, comme ça ce vieux matou n'aura qu'à bien se tenir. » Ginette voulait savoir la date des funérailles de la vieille dame. Monsieur Sagol, j'ai organisé une petite collecte pour les obsèques de Mélanie. Quand saurons-nous la date? Dès que la médecine légale aura rendu son rapport. En toute hypothèse, je pense que le milieu de la semaine prochaine serait envisageable. Je vous promets de vous tenir au courant. Merci, monsieur Sagol. Vous désirez quelque chose? 4 croissants pur beurre. Vous n'allez pas recommencer. Ici, il n'y a que du pur beurre. Vous êtes taquin ce matin. Incorrigible, Ginette. Le bonjour à Loïc, bonne continuation et prompt rétablissement à vous, monsieur Rioux. Merci, monsieur Sagol. Bonne journée. Léo passa devant la maison de la victime. Des chats erraient le long des murs entre les monticules de neige. Ils cherchaient désespérément de la nourriture. Personne à ce jour n'avait pris le relais de la vieille dame. Les minettes et les minets étaient soumis à la diète. La température se situait largement au-dessous du zéro fatidique. Sagol dégageait de la buée à chaque expiration. À l'inspiration, l'air glacial lui brûlait les poumons. L'hiver était rigoureux cette année. Depuis plusieurs jours, la Sibérie s'était installée au pays. Gilles préparait un café chaud. Il aperçut son chef avec le sachet de croissants à la main. Il appréciait beaucoup les viennoiseries de cette boulangerie. Sagol fut content de se mettre au chaud. Sa promenade matinale l'avait sérieusement rafraîchi. Les deux collègues savourèrent leur petit déjeuner. Ils étaient maintenant d'attaque pour une nouvelle tournée d'investigation. Gilles s'était documenté sur la pratique de la taxidermie. Il existait deux spécialistes dans l'agglomération. Le premier exerçait son art dans la rue du château, assez près du domicile de la défunte, et le deuxième travaillait à la campagne, à quelques kilomètres de la ville. Ils choisirent de commencer par un petit voyage bucolique. Le chef, échaudé par la conduite de son adjoint dans le chemin de la baronne, lui demanda s'il connaissait les voies d'accès. Gilles saisit parfaitement le sens de la question de son supérieur. Il lui précisa que la demeure du taxidermiste se situait en bord de route. Le soleil hivernal brillait sur la campagne enneigée. Les montagnes se détachaient sur un ciel bleu d'azur. Cette vue splendide ce jour était un cadeau inespéré de la nature. Un groupe de corbeaux croassés perchaient dans les grands arbres. La rivière, basse pour la saison, coulait nonchalamment le long de ses berges blanches. La Peugeot ralentit au passage d'un pont. Léo regrettait de ne pas avoir pris son appareil photo pour le voyage. Il aurait pu montrer à son épouse des images d'une grande beauté. Dans les prés, recouverts d'un manteau laiteux, un couple évoluait en raquette. Ils s'enfonçaient jusqu'aux genoux dans la poudreuse. Leur souffle court sous l'effort libérait une fine buée. Théophile Bernier venait de finir de dégager avec une pelle le parking devant sa maison. Il avait un sac de sel dans une main. L'autre, ganté, dispersait les grains dans un geste rappelant celui des semeurs du siècle précédent. Lorsqu'il vit la voiture, il posa le sac et se dirigea vers elle. « Bonjour, quel bon vent gelé vous amène ?»« Bonjour, monsieur Bernier, c'est moi qui vous ai téléphoné à la première heure ce matin. Voici l'adjudant-chef Sagol, gendarme Gilles. Venez avec moi dans l'atelier, il y fait 2 ou 3 degrés de plus. » Les trois hommes pénétrèrent dans la caverne d'Ali Baba. Dans un atelier, au mur en planche, un bestiaire insoupçonnable s'offrit aux yeux des visiteurs. Toutes sortes d'animaux montaient la garde. Des bêtes à plumes et à poils, des animaux sauvages et domestiques, l'arche de Noé de l'ère moderne. « Ne vous inquiétez pas, messieurs, aucun ne vous mordra. »« Vous travaillez sur commande ?» demanda Sagol. « Pas seulement. Il m'arrive de récupérer des animaux pour les commercialiser. J'ai des amis chasseurs qui me fournissent gracieusement. » Gilles voulait en savoir plus sur les méthodes de travail. « Comment procédez-vous ? » ?»« Oh, très simplement. Il faut d'abord tuer la bête. Je ne traite jamais les espèces protégées, sauf si la demande émane d'un service agréé. Je veux parler de l'État ou d'un musée. Notre activité est très réglementée et particulièrement surveillée. Avec les maladies de la vache folle et autres, je ne peux accepter un travail sans connaître la provenance de la commande et je demande souvent un certificat sanitaire délivré par les services vétérinaires. J'ai bien compris. J'aimerais connaître le travail que vous effectuez sur le cadavre. J'y viens. L'intérêt principal réside dans la peau. Tout le reste doit être enlevé. Donc, si l'animal arrive entier chez moi, je procède au dépeçage. Voilà un aspect méconnu et primordial de mon travail. Il faut être minutieux et découper avec sûreté, sans oublier les griffes. Ensuite, je fais détruire le cadavre en le confiant au service d'incinération. Après, je racle la peau. Au début de ma carrière, je tannais aussi. Maintenant, je confie mes peaux à une tannerie. Je viens d'avoir 62 ans et ça me permet un gain de temps appréciable. Je peux me consacrer au traitement et à la mise en forme, ce qui est le plus intéressant à mes yeux. « Quels produits utilisez-vous ? » demanda Sagol. « De nombreux produits. Cela dépend de ce que l'on veut faire. J'utilise surtout des assouplissants pour les peaux et des fixateurs pour que le poil reste bien en place. » Et pour la mise en forme, quelle matière avez-vous à disposition ? Je suis resté assez conservateur. Je travaille à l'ancienne. Certains confrères sont passés à la résine et à la mousse. Moi, je travaille avec des éléments naturels tels que le bois, l'osier, la paille et le plâtre. C'est un peu comme si l'on comparait un meuble fabriqué en Chine avec celui d'un artisan ébéniste d'ici. Merci pour vos explications, reprit Sagol. Je voudrais savoir si vous avez naturalisé des chats ces 3 derniers mois. Bien entendu, ils sont encore ici, regardez. Il y a un persan blanc, un gouttière au pelage Isabelle et un chartreux. Vous n'en avez pas eu d'autres ?
Non, car je garde l'animal plusieurs semaines avant de le confier à ses propriétaires. Cela me permet de surveiller l'évolution en situation définitive.
Gilles sortit d'un porte-document contenant quelques épreuves.
Jetez un coup d'œil à ces photos, monsieur Bernier. Je souhaiterais avoir votre opinion sur ce que vous voyez.
Je doute que ce soit du boulot de taxidermiste. Le contour des yeux est irrégulier. Ici, le pli au milieu des pattes arrière est anormal. Ceci ne correspond pas à la morphologie d'un félin. Il me faudrait voir les pièces en vrai.
Cependant, je vous affirme que vous avez affaire à un amateur qui a procédé à cet empaillage grossier.
Les deux complices se trouvaient confortés dans leur idée, convaincus depuis le début qu'il ne s'agissait pas de l'œuvre d'un professionnel. Bernier apportait par son expertise la confirmation de leur hypothèse. Il les éclaira avec plaisir sur son métier peu commun. Ils remercièrent chaleureusement le spécialiste. Sur le chemin du retour, Sagol et Gilles échangèrent leur point de vue. Ils convinrent de rendre visite à Joseph Sifaut, rue du Château. Son atelier se situait au rez-de-chaussée d'une vieille maison, actuellement en phase de restauration. Un échafaudage dissimulait la façade. Avec la température glaciale, le chantier se trouvait en sommeil et les ouvriers au chômage technique. Ils enjambèrent quelques madriers pour accéder à sa boutique. Une vieille cloche résonna à l'ouverture de la porte. Un homme d'une 50aine d'années travaillait sur un établi. Il s'arrêta à leur entrée.
« Bonjour. »
« Bonjour, vous êtes monsieur Chiffaut, je suppose, » dit Sagol.
« Oui, c'est bien moi.
Voici le gendarme Gilles, adjudant-chef Sagol. Nous venons voir si vous avez naturalisé des chats ces derniers temps. »
« Je n'en fais pas souvent. J'en ai un en cours, il est là. »
Joseph Sifaut leur montra un socle sur lequel était posée une peau de couleur noire. Ils n'eurent pas besoin d'en savoir plus. Bernier leur avait donné suffisamment d'éléments. Ils posèrent encore 2 questions banales. L'homme n'étant pas bavard ni accueillant, ils le laissèrent à son labeur. De retour à la caserne, ils prirent le déjeuner au mess et parlèrent de tout et de rien, sauf de l'affaire en cours. Ils étaient suffisamment perplexes sans se polluer l'esprit pendant cet entracte. Ils burent le café avec d'autres collègues et vers 14h rejoignirent leur bureau. Sur celui de Sagol l'attendait une enveloppe au logo de France Télécom. Il la décacheta sur le champ. Il s'agissait des relevés des communications téléphoniques échangés ces 6 derniers mois sur le poste de Mélanie Pralon. L'enveloppe contenait 3 feuillets. Le premier concernait l'objet du courrier avec la formule de politesse habituelle. Les 2 autres étaient rédigés sous forme de tableau et reprenaient les communications entrantes et sortantes de la date la plus ancienne à la plus récente. En parcourant rapidement les documents, Sagol repéra quelques numéros qui revenaient souvent. Il y avait 41 coups de fil entrants et 33 sortants. Il se dirigea vers la photocopieuse et en réalisa des copies qu'il remit à Gilles.
« Nous allons nous partager, mon cher Gilles. À vous les appels entrants, à moi les sortants. »«
Bien entendu, chef. Nous sommes partis. »
Gilles, méthodique, ouvrit un tiroir et en sortit des feutres. Il surligna en jaune les appels entrants. Sur la suivante, il utilisa les autres coloris pour sélectionner les communications répétées. La sélection se révéla judicieuse. Il ne resta que 12 appels isolés, le reste se décomposant de la manière suivante. 6 appels provenant d'un numéro local, 18 de région parisienne, et 5 d'Italie. Sagol procéda de la même manière. Il répertoria 8 appels isolés, pour la plupart dans l'agglomération, 6 en Italie, 12 en région parisienne et 7 en ville. Ils firent un comparatif de leur sélection. Les appels entrants et sortants vers l'Italie concernaient un numéro identique,
les 30 coups de fil en région parisienne aussi. Les 13 appels locaux furent identifiés immédiatement par les deux gendarmes. Il s'agissait de la SPA. Mélanie et Madame Dercourt s'appelaient fréquemment. Il restait à identifier un interlocuteur ou interlocutrice en région parisienne, un en Italie, et 20 appels isolés. Un fait était à souligner. La moitié des communications isolées s'étaient produites dans la semaine précédant le meurtre. Gilles effectua des recherches par numéro sur Internet. L'outil s'avéra efficace. Moins d'un quart d'heure s'écoula et il identifia toutes les lignes, à l'exception de 5, qui devaient être sur liste rouge et qu'il conviendrait d'obtenir par commission rogatoire simplifiée. Sagol s'en occupa dans l'instant avec une autre demande. La ligne italienne était inscrite sous le nom de Cristina Pietrangeli au 31 via Rosso, Torino. Le numéro en région parisienne était au même nom, Giuseppe Pietrangeli, 14 rue du Hara à Vincennes. La liste des interlocuteurs à communication unique était hétéroclite. Ils trouvèrent des appels à vocation commerciale, surtout dans deux domaines. La rénovation et l'agencement intérieur, il y avait un notaire, Maître Léchaud, un magasin de vêtements conversa aussi avec Mélanie, il s'agissait des galeries modernes. Deux appels entrants ne trouvèrent pas preneur. Une communication échangée le jeudi 30 janvier. L'appel dura 6 minutes entre 20h et 20h06. Il provenait d'une cabine publique depuis Bordeaux. L'autre échange s'était produit le lundi 27 janvier d'une cabine située sur la place de la mairie à Grenoble. La conversation fut brève, de 20h01 à 20h03. Le dernier appel échangé par la victime était entrant. Il s'agissait du notaire. Le samedi 31 janvier à 11h13. Après, le téléphone resta définitivement muet. Sagol et son adjoint mirent au point leur plan de travail. Sagol joignit à sa demande d'identité des abonnés en liste rouge une requête pour obtenir la copie des propos échangés à partir des cabines téléphoniques. Il doutait de voir son vœu se réaliser. D'expérience, il savait que les opérateurs de télécommunications n'aimaient pas beaucoup effectuer ce type de recherche. Dans la majorité des cas, il s'en sortait par une pirouette en déclarant que les bandes ou fichiers du jour étaient inexploitables ou effacés. Gilles irait le mardi 11 février rencontrer M. Lapébi à Conques. Dans le même temps, Sagol franchirait le tunnel du Fréjus pour se rendre à Turin à la rencontre de Madame Cristina Pietrangeli. En attendant, il rendrait visite à Maître Léchaud ainsi qu'aux galeries modernes. L'étude du notaire était installée au premier étage d'un immeuble moderne de la vieille ville. Les gendarmes furent agréablement surpris par le décor futuriste et le personnel. Ils furent reçus par une jeune femme d'environ 25 ans, vêtue d'un sweat-shirt court. Un diamant brillait à l'intérieur de son nombril. Lorsqu'elle sourit, ils virent aussi un piercing sur sa langue. Gilles, qui avait l'esprit coquin, pensait à d'autres endroits de son corps aussi joliment décorés. À la demande de Sagol, elle décrocha un combiné et fit part de leur présence à son patron. Le notaire, élégant, à l'image de son personnel, semblait dynamique. Il se dégageait de sa personne une énergie communicative. Il vint tout sourire à leur rencontre et les pria de le suivre. Les présentations auraient lieu dans son bureau. « Messieurs, bonjour. Comme vous avez pu le constater, je suis Jocelyn Léchaud, titulaire de l'étude. En quoi puis-je vous servir ? Merci, maître, de nous recevoir à l'improviste. Voici le gendarme Gilles, adjudant-chef Sagol. Connaissez-vous Madame Mélanie Pralon ? Bien entendu. C'est une cliente de l'étude. Que lui est-il arrivé ? Elle est décédée. Et votre étude l'a appelée samedi 31 janvier. Nous aimerions connaître le but de cet appel. Ce n'est pas moi qui l'ai appelée. Nous allons demander à Stéphanie de sortir le dossier. Un instant, s'il vous plaît. Je vous en prie, répondit Sagol. Stéphanie, pouvez-vous venir avec le dossier de Madame Pralon ? Stéphanie arriva en courant.
Voici, maître.
Merci beaucoup. Ça, c'est une collaboratrice.
Jocelyn attendit le départ de son employé pour faire cette remarque.
Mais il sautait aux yeux que l'ambiance de travail était excellente et les employés du notaire, toutes de moins de 35 ans, semblaient tenir leur patron en haute estime, pour ne pas dire davantage.
Revenons au cas qui nous occupe, messieurs. Je vois effectivement qu'il a été noté un appel pour informer cette dame que je pouvais la recevoir dans la semaine 8 pour finaliser son testament.
Vous dites finaliser ?
Oui, Madame Pralon possédait quelques biens et m'a demandé d'évaluer son patrimoine dans un premier temps. Nous devions, à la suite de cette évaluation, rédiger son testament.
Avait-elle donné des indications sur le ou les bénéficiaires ? Demanda Gilles.
Absolument pas. Nous devions aborder ce sujet au prochain rendez-vous.
À ce stade, je ne peux vous en dire plus. Il faudra que je consulte le fichier central de l'ordre des notaires pour voir s'il n'y a pas d'autres dispositions prises chez des confrères et pour établir l'ordre d'héritage. Il ne nous reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une bonne continuation, maître.
Je vous remercie, je vous raccompagne.
Gilles souffrit d'une agression visuelle pendant l'entretien, due à une reproduction d'un tableau de Vasarely avec des carrés et des losanges qui procuraient un effet d'optique assez surprenant, l'œil ne pouvant se détacher de la toile. Puis, la jeune Stéphanie l'avait poussé dans ses retranchements. Il regardait dans sa direction lorsqu'elle pénétra dans la pièce. Elle portait un chemisier blanc et par le jeu des transparences, la poitrine ferme de la jeune femme s'offrait au regard. L'apparition furtive et le demi-tour firent le reste. De dos, Gilles vit à contre-jour le string blanc de la demoiselle. Cela faisait beaucoup pour un seul homme. Heureusement qu'il possédait un bon self-control. Il ne dit rien à son chef, car il savait que celui-ci en profiterait pour le railler. Le trajet de l'étude jusqu'aux galeries modernes fut bref, à peine 200 mètres. Il n'avançait pas d'un pouce dans ce dossier, le notaire ne pouvant fournir aucune information sur les héritiers. Arrivé au magasin, ils se dirigèrent du même pas vers l'hôtesse d'accueil qui appela un responsable. Le coup de fil passé à Mélanie concernait un pantalon d'hiver qu'elle venait d'acheter et qui nécessitait des retouches. L'appel la prévenait que le vêtement se trouvait à sa disposition. Le responsable regarda rapidement sur l'ordinateur le nom de la cliente et en 3 secondes il put donner l'heure de l'appel et le sujet abordé. Les gendarmes apprécièrent le professionnalisme de leur interlocuteur. Autant de temps de gagner sans se confondre en de longues explications. En ce vendredi 7 février, le froid sévissait depuis une quinzaine de jours. Succédant à la période neigeuse, chaque jour il s'incrustait davantage. Le thermomètre atteignait facilement 5 degrés en dessous de zéro, descendant jusqu'à moins 9 la nuit. Mistigris, qui surveillait le quartier, s'aventura dans le square. Le givre sur les arbres et les arbustes donnait à l'endroit un aspect irréel. Heureusement pour lui, le matou possédait ses habits d'hiver. Son poil épais et plus long qu'en été s'adaptait parfaitement à la rudesse de la saison. Un plan d'urgence venait d'être adopté par rapport à la météo et à la disparition de leur bienfaitrice. La première mesure, se déplacer uniquement pour chercher de quoi se sustenter en solitaire ou à deux, jamais plus. Il convenait de respecter cette condition pour ne pas attirer l'attention des mauvais coucheurs. La seconde, se tenir à l'abri et dormir ensemble. Cela permettait d'avoir plus chaud. Un événement aida le peuple des chats dans sa quête journalière de nourriture. Le congélateur d'un voisin tomba en panne avant que celui-ci ne rentre d'un week-end de villégiature. Ainsi, la majorité des denrées décongelées terminèrent leur parcours dans un conteneur à ordures. Un guetteur donna l'alerte. En quelques minutes, la poubelle fut vidée de son contenu et tout ce qui était mangeable
fut rapidement évacué vers les caves adjacentes. La tribu pourrait manger durant plusieurs jours. Les gendarmes opéraient dans le quartier et consacraient la journée à l'enquête de voisinage. Le travail était fastidieux. Il fallait frapper à toutes les portes et effectuer un tri dans les propos tenus par les uns et les autres. Au rez-de-chaussée de la maison de la vieille dame, les locaux étaient vides de tout occupant. M. Charrier, le relieur, profitait de sa retraite depuis plusieurs années. N'ayant pas trouvé de remplaçant, il ne chercha jamais à vendre le pas de porte à d'autres artisans ou commerçants. Au premier étage, une plaque sur la porte indiquait « Fabrice Gentil ». Ils frappèrent, aucune réponse. Ils passèrent à l'étage suivant. Stéphanie Bess ouvrit et ne fut pas surprise de voir la maréchaussée se présenter à son domicile. Cette jeune femme, d'environ 35 ans, travaillait dans le domaine des animations commerciales. Grande, le cheveu châtain, long et frisé, l'œil vif, elle vivait seule ou avec, de temps à autre, un oiseau de passage. Elle disait elle-même qu'elle prenait des amants épisodiquement. Elle n'apporta pas d'éléments nouveaux concernant le meurtre. Elle se trouvait à Val d'Isère pour skier avec un groupe d'amis, du vendredi soir au mardi matin. Son métier lui permettait de s'organiser à sa guise. Elle les renseigna sur son voisin du dessous. Fabrice Gentil était un homme célibataire, ingénieur pétrolier, que sa profession amenait à de longues absences. Actuellement, il évoluait sur une plateforme offshore en mer du Nord. Stéphanie confessa qu'elle en pinçait pour ce bel homme et qu'ils firent chambre commune quelques mois, 2 ans auparavant. Justine Coinon avait pris un jour de RTT. Elle se trouvait sous la douche lorsque les deux gendarmes se présentèrent à son appartement. Elle s'enroula une serviette autour de la poitrine et, toute mouillée, courut voir qui sonnait de bon matin. Elle vivait avec Hervé Bonaventure, un mécanicien originaire des Antilles. Celui-ci travaillait au garage de la concession Renault. Ce jeune couple vivait son histoire d'amour en parfaite harmonie. Justine n'avait rien remarqué d'anormal, sauf la porte de l'immeuble en face qui était restée ouverte. Le bâtiment était voué à la démolition depuis des lustres et l'entrée condamnée. Elle supposa qu'un rôdeur voulait squatter les lieux et qu'il n'avait pas trouvé l'endroit à son goût. Mademoiselle Coinon venait de fêter ses 28 ans. Elle connaissait un peu la dame au chat et l'appréciait. Elle se déclara bouleversée par sa disparition. Son expression paraissait sincère. Clémentine Michaud les croisa dans la cage d'escalier. Elle leur dit brièvement qu'elle se devait d'être à l'heure à l'Hôtel de France, qu'elle se tenait à leur disposition à partir de 17 heures. Le chef n'estima pas nécessaire de l'auditionner. Il posa 2 ou 3 questions sur l'emploi du temps de la femme de chambre et la remercia. Ils continuèrent pendant toute la matinée le quadrillage du voisinage de la défunte. Le moment le plus insolite fut la visite du squat si au 22 rue du Carillon. À quelques dizaines de mètres de l'habitation de Mélanie, un autre monde existait, ou plutôt survivait. Lorsqu'ils poussèrent la porte d'entrée, une odeur d'encens, mêlée à celle de l'urine, agressa leurs narines. Dans le couloir, parmi les immondices, des jeunes gens fumaient, les yeux vitreux. Des seringues jonchaient le sol. Les murs de la montée d'escalier étaient couverts de graffitis. Les taggeurs montraient parfois un réel talent. Plusieurs dessins étaient réalisés avec de la peinture phosphorescente. L'effet psychédélique surprenait l'œil le plus aguerri. Les deux hommes se frayèrent un passage avec difficulté. Des cagettes, jetées pêle-mêle, obstruaient le vestibule. Dans une grande pièce, des planches brûlées, posées sur des parpaings. Tout autour du feu, des filles et des garçons se réchauffaient. Ils avaient tous des mines cadavériques. Certains fumaient de l'herbe, d'autres buvaient de la bière. Ils furent bouleversés et écœurés par ce gâchis. N'en croyant pas leurs yeux, ils ne s'attendaient pas à un tel tableau dans cette petite ville. Un couple faisait l'amour dans l'indifférence générale. C'était une sombre représentation de la jeunesse actuelle. Les enquêteurs essayèrent de questionner une jeune fille qui semblait en meilleur état que ses congénères. Elle proféra des insultes en leur montrant ses fesses. Sagol préféra battre en retraite. Il n'obtiendrait rien des toxicos. Les témoignages se résumaient tous en peu de mots. Mélanie Pralon était une brave femme. Aucune fausse note ne vint ternir les dépositions. Ils rentrèrent à la brigade en milieu d'après-midi.